faut bien voir que ce genre de taxe pose deux types de problèmes. D'abord, un accord assez général pour que tout le monde l'applique. C'est-à-dire que, en Europe, par exemple, le Royaume-Uni est fondamentalement et farouchement hostile à cette taxe. Et donc, il sera difficile de l'appliquer au niveau européen. Et deuxième élément, il y a un problème de détermination d'assiette. C'est-à-dire sur quoi on va faire porter cette taxe. C'est-à-dire quelle est la nature des mouvements financiers, des transactions financières que l'on va vouloir freiner par l'apparition de cette taxe. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'origine, Tobin, dont le nom est mis assez systématiquement en avant, n'avait pas conçu cette taxe dans un système économique et financier tel qu'il est à l'heure actuelle, mais dans un système de change fixe. Et au moment où un certain nombre de mouvements politiques ont mis en avant son nom autour de cette taxe, il avait lui-même récusé cette appellation en disant que ça ne correspondait pas à sa logique intellectuelle.
La Suède l'a déjà appliquée à la fin des années 80, ça a été un échec. Pourquoi donc vouloir la remettre au goût du jour, cette Tobin tax? Est-ce que c'est juste un effet d'annonce?
Alors plusieurs pays ont effectivement essayé plus ou moins de l'appliquer, la Suède, le Chili, le Canada, la France a même voté dans son appareil législatif la création de cette taxe, mais à taux zéro. Alors pourquoi c'est si à la mode? C'est à la mode à mon avis pour trois raisons. La première, c'est parce que les banquiers qui sont censés être punis par cette taxe ne sont pas très populaires, et ça de longue date. La deuxième raison, c'est parce que la finance est quelque chose d'assez mystérieux, et donc la réalisation concrète et pratique de la taxe échappe à l'essentiel de la population. Et la troisième raison, c'est que la population, justement, ne se sent pas directement concernée, non directement victime de cette taxe. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui se passe dans un autre monde où des méchants vont être punis. Et donc, ça ne peut être que très populaire.
Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'applicable et qui va pouvoir trouver un consensus au niveau européen ?
Un consensus, d'autant plus qu'on est dans une phase où l'Europe essaie de déterminer ce qu'elle appelle ses avantages comparatifs, c'est-à-dire les secteurs dans lesquels elle peut avoir des parts de marché importantes, dans lesquels elle peut affirmer une certaine forme d'excellence. Or, en matière financière, l'Europe est une des places tournantes de la sphère financière. C'est-à-dire que Londres est la première place du monde en termes de flux de capitaux, en termes d'échanges sur les marchés monétaires et financiers. La France a un système bancaire qui est extrêmement performant. Et donc, sur le plan strictement logique, essayer de pénaliser des secteurs qui sont les plus compétitifs en Europe paraît assez aberrant. Quand, par exemple, le président François Hollande avait dit, alors qu'il était candidat, que la finance n'a pas de visage, en fait, elle a des visages très concrets, c'est-à-dire les emplois des gens qui travaillent dedans, et toute augmentation de ses coûts ne peut que nuire à sa compétitivité.
Y a-t-il une alternative à ce type d'impôt, de taxe ?
Ça dépend ce que l'on cherche, c'est-à-dire soit on cherche des recettes, et à ce moment-là, il y a de multiples alternatives, on voit bien que ce n'est pas forcément dans le secteur financier qu'il faut pénaliser, qu'il faut frapper sur le plan fiscal. Donc l'Europe a des problèmes de déficit de ses comptes pour un certain nombre de pays, de ses comptes extérieurs, donc c'est des problèmes plutôt d'excès de consommation. Et puis la deuxième alternative, c'est comme toujours face à un impôt, il y a des dépenses. L'alternative en termes de politique économique qui est toujours offerte, c'est d'essayer de réduire les dépenses.